The sun is setting east and all the children see it. Long ago, it would not have mattered on the snow.
Oasis, à l'instant, c'était Sarina Cohn. Aucun lien de parenté, et je le déplore bien parce que quel organe. Bien, réglez vos montres, il est précisément 20h et vous écoutez Radio Judaïka, vous avez bien raison. Judaïka. Et comme tous les lundis soirs à 20h, c'est l'heure de jouer la prolongation. On ne s'en lasse pas de ce générique signé Samuel Cujas, qu'on remercie et qu'on salue au passage. Samuel Cujas, toujours aux abonnés absents, mais pour la bonne cause. Ce soir, on joue la prolongation ici avec les chroniqueurs habituels. Le premier d'entre eux, bah, comme chaque semaine. Et cette semaine-ci, le jump de Van Halen résonne comme un hymne quelque part. Ils ont gagné. L'Olympique de Marseille a gagné. Bonsoir Blaise Van der Linden.
Bonsoir à tous. Et oui. Deux
tout
matchs
arrive.
D'affilée, ça faisait longtemps que ça n'était plus arrivé à l'Olympique de Marseille. Ça fait vraiment plaisir.
On en discutera tout à l'heure, voir si l'effet Sampaoli a lieu ou non. Ce sera pour après. Deuxième chroniqueur, qui est aussi, comment dirait-on, fan, puisque bah, c'est le principe du jeu quand on est supporter de foot. Et puis là, voilà. Ouais. Non, un petit instant, quand je te fais signe, oh là là, calmos.
Je veux pas vous cacher que je suis supporter des mauvais blancs.
Bonjour à tous.
Voilà, c'est bonsoir,
Sursi. Je suis désorienté. J'ai vu mon équipe jouer au football.
Il a plus dormi.
Je croyais que c'était du football, mais je suis perdu. J'ai perdu mes repères.
Oui. Ben on verra hein, si le process, comme on dit, a des limites. On en discutera tout à l'heure, puisqu'on parlera de la Croquis Cup et Anderlecht qui pleure et d'autres qui rient. Sur les traits, Guermès au boudin, cachère, s'entend.
Mais ne sois pas désagréable. Les vrais clubs jouent la coupe, tu sais.
Bonsoir Steve Gris.
Bonsoir Didier, bonsoir à tout le monde.
Comment ça va bien?
Ça va plutôt bien. Voilà. Les occasions de se réjouir sont rares, donc profitons-en. Et puis, comme je le disais, il y a une compétition cette année. C'est oui. La Coupe de Belgique.
Ouais, c'est clair, c'est bien le standard. Se hisse en finale de la Coupe, la Croquis Cup, comme Sam adore l'appeler, avec un average de plus 2, parce qu'ils en ont marqué 2, ils en ont encaissé 0 contre le club de Bruges. Et alors, il a quand même fallu se battre hein, pour battre Penn quand même.
Ah, mais un match de coupe, c'est un match de coupe. Hein. Ça se gagne en une manche et ça se gagne avec les tripes et un éclair de génie. Et ce fut le cas samedi soir.
Ah, ben voilà. À Malou.
Mais on va en parler. Hein,
on va en parler tout à l'heure, bien sûr. Un programme assez riche aujourd'hui, puisque bien dans un instant, on aura l'entretien de On joue la prolongation. Vous savez, c'est devenu une habitude dans cette émission bien de retrouver chaque semaine un invité par téléphone et parfois même en studio. Et aujourd'hui, on est allé chercher cet invité de l'autre côté de la frontière, outre Quiévrain, puisque il ne s'agit de personne d'autre que de... Comment s'appelle-t-il le jeu je l'ai ici Julien quelque part. Taïeb. Voilà, Julien Taïeb, qui est le responsable des affaires juridiques de la LFP, comprenez la Ligue française, la Ligue de football professionnel, c'est-à-dire les instances de la Ligue 1 en France. Puisque vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, la LFP, la Ligue de football professionnel française, va organiser son trophée des champions, c'est-à-dire le match qui oppose traditionnellement le champion de France au vainqueur de la Coupe de France. Eh bien, ils ont décentralisé depuis quelques années pour promouvoir, faire la promotion de leur football à l'étranger. C'était en Chine il y a quelques temps, au Canada, je pense, même au Gabon, si ma mémoire est bonne, en Afrique. Et puis là, c'est à Tel Aviv que ça va se dérouler au mois d'août. Et c'est une grande première. Et on va prendre la direction de Paris et de Julien Taïeb pour en savoir un petit peu plus dans un instant. Ensuite, on parlera et on débriefera les deux demi-finales de la Croquis Cup, déjà qu'on l'a fait. Anderlecht pleure, puisqu'ils ont été battus par Genk 1-2, malgré le fait d'avoir joué 25 minutes en supériorité numérique, on y reviendra. Steve Gris vient de se gonfler le melon, puisque le Standard est en finale face à Genk, et ayant battu Eupen.
Je suis objectif, on est en finale et puis c'est tout. On est en finale.
Objectif final, donc. On parlera aussi de la Ligue des Champions, puisque cette semaine, eh bien, c'est la semaine des favoris, hein, puisque il y a quand même le Bayern, je pense que lui, il est relativement à l'aise, hein, il va à la Lazio avec un avantage quand même de 3 buts. Man City, qui a gagné à Gladbach 0-2, et le Real, vainqueur 0-1 à l'Atalanta, donc peut-être que ça se dessine tout doucement, on en parlera tout à l'heure. Et puis également, nous parlerons aussi de Serie A avec le 19e but de Romelu Lukaku. Il faut le souligner, il faut surtout s'en féliciter. On va parler Liga avec Eden Hazard qui est monté au jeu et qui a quitté le terrain d'entraînement ce matin puisqu'il s'est reblessé. Et oui, c'est vraiment faute à pas de chance. On verra un petit peu si c'est pas de chance, peut-être mauvaise gestion médicale. On verra cela puisque vous savez, dans un autre club, c'était le Bayern. Je pense que même c'était, je pense, Guardiola. Non, c'était son prédécesseur, Ancelotti. Je pense. Ancelotti qui avait viré tous les membres du staff médical. Donc, ce serait peut-être bien de se poser une fois la question de voir si dans les clubs on gère bien les affaires médicales. Et puis, on terminera par la Ligue 1, puisque Blaise, on a entendu son cri de joie et toute sa frustration qui est ressortie d'un coup à travers le micro. Le Marseille qui a gagné son deuxième match d'affilée. C'est un 6 sur 6. C'était plus arrivé depuis octobre 52, je pense.
Oh, tu es dur, tu es dur. C'est pas parce que toutes les équipes ne gagnent pas tous les matchs, tous les week-ends.
C'est vrai. Et pour cause, le club de Bruges non plus.
C'est vrai.
Et on parlera bien sûr aussi de la mise à jour du championnat de Belgique, puisque vous le savez, pour le moment, il y a eu un petit intermède avec la Coupe. Eh bien, la Jupiler Pro League en a profité pour se mettre à jour avec un match qui a eu lieu vendredi soir qui opposait en match de retard Charleroi au club de Bruges, qui a vu le match se terminer par un match nul, un but partout, ce qui équivaut presque à une défaite. On a tellement l'habitude que Bruges gagne qu'aujourd'hui on dit oh, Bruges, franchement, ils n'ont pas perdu en définitive, mais bon. Et ce soir, dans 40 minutes environ, eh bien, Bruges affronte la Gantoise. Ce sera le match d'alignement. Et après ça, on verra, c'est pas qu'on verra plus clair dans le classement, parce que là, pour le moment,
il est déjà
bien clair, mais on aura, tout le monde sera sur le même pied d'égalité. Voilà pour le programme. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps d'aller rejoindre Julien Taïeb. Pour le rappel, on a appris en fin de semaine passée que la LFP, la Ligue de football professionnel française, allait organiser son trophée des champions. Le match, je vous le disais, qui oppose traditionnellement le champion de France au vainqueur de la Coupe de France en Israël. Et ça, c'est une grande première. Cela se passera le 1er août prochain au Bloomfield Stadium de Tel Aviv. Et afin d'en savoir un peu plus sur les conditions du choix et de l'organisation de cette grande première, Samuel Cujas s'est entretenu aujourd'hui avec Julien Taïeb, le responsable des affaires juridiques de la LFP. Samuel, c'est à vous.
Julien Taïeb, responsable des affaires juridiques de la Ligue de football professionnel française. Bonjour Julien Taïeb, merci de nous accorder ces quelques moments pour répondre à nos questions. Comment allez-vous en cette période difficile ?
Écoutez, on va bien. On est très heureux d'avoir pu conclure cet accord pour l'organisation du Trophée des Champions cet été en Israël. C'était une très bonne nouvelle dans un contexte et une année difficile, donc on s'en réjouit.
on imagine. Donc on a appris l'organisation du Trophée des Champions à Tel Aviv en fin de semaine dernière. On sait que la Ligue de football professionnelle organise le Trophée des Champions régulièrement depuis une quinzaine d'années en dehors de France, sans doute pour donner une exposition supérieure à la Ligue 1. Est-ce que Tel Aviv était dans les choix possibles depuis longtemps, ou est-ce que la situation actuelle, notamment sanitaire, ont été déterminantes dans le choix de Tel Aviv?
Alors effectivement, on essaye d'organiser le Trophée des Champions à l'étranger depuis plusieurs années pour augmenter l'exposition du championnat, parce que on a à cœur de promouvoir l'image de la Ligue 1 et de faire connaître notre championnat le plus possible à l'étranger, aussi dans la perspective qu'il soit diffusé sur des territoires étrangers toujours davantage. De la France est diffusée un peu partout à l'étranger, mais pas partout. Et les autres championnats européens ont encore un train d'avance sur nous dans ce domaine. Donc, on est au travail. Et Tel Aviv est une place particulièrement intéressante dans cette optique, parce que il y a un public qui est tout à fait réceptif au championnat de Ligue 1 à notre sens. Il y a une région qui est tout à fait intéressée par le foot et le championnat de Ligue 1 de façon plus générale. Et c'est une zone qui n'avait pas encore été investie par les LFP par le passé. Il y avait eu des trophées des champions au Canada, en Afrique, en Asie, et le Moyen-Orient et Israël, pas encore. Donc on est très heureux de pouvoir ajouter cette pierre à notre édifice, et on est certain que l'événement sera un grand succès. On sait que la population locale nous suit, et ça va être vraiment exceptionnel, je pense, de pouvoir organiser ce match avec des grandes équipes du championnat là-bas.
Oui, j'allais vous le dire, justement, on dit souvent qu'on peut changer de pays, on peut changer de femme, on peut même changer de religion, mais on a du mal à changer de club de foot. Et dans cette perspective, je me demandais, mais j'imagine que je sais comment vous allez me répondre sans doute, que le fait qu'il y ait une importante population d'origine française en Israël, ça doit faire partie des éléments qui ont aidé qui vous ont aidé à choisir Tel Aviv comme une destination naturelle peut-être pour une plus grande exposition du foot français. Vous savez que vous aurez a priori des spectateurs qui seront réceptifs au spectacle de Ligue 1 le 1er août.
Alors le dicton début de votre question, il est vrai en Angleterre. Je ne sais pas s'il est vrai en France ou en Israël. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le Trophée des Champions rassemble de façon systématique des grandes équipes de football. Et on est certain de proposer un spectacle exceptionnel dans ce cadre-là. L'événement va être forcément intéressant. Et du coup, on sait aussi, c'est vrai, que la population d'origine française qui réside actuellement en Israël va être particulièrement intéressée de voir ou de revoir leur club de cœur évoluer pour la première fois. Enfin, pas pour la première fois, parce qu'il y a eu par le passé des matchs pas forcément heureux pour le Paris Saint-Germain contre des équipes israéliennes. Mais là, ça va être deux équipes françaises qui vont être réunies à Tel Aviv. Je pense que c'est inédit. Et voir des grandes stars comme celle du Paris Saint-Germain, par exemple, de l'Olympique de Marseille, de Lyon, qui jouent dans un stade à Tel Aviv. J'espère vraiment que les conditions sanitaires vont se décanter pour permettre que le stade soit rempli, parce que je suis certain qu'il y aura une vraie demande.
Voilà, justement, c'était ma prochaine question. On voit le rythme des vaccinations en Israël, le nombre de contaminations qui diminue. Est-ce que vous avez une garantie, ou pas une garantie, mais est-ce que vous avez une impression que le public sera de retour dans le stade à ce moment-là? Et si oui, dans quelle proportion? Est-ce que le stade, je crois que c'est un stade qui fait près de 30, un peu moins de 30 000 places, il sera rempli, ou est-ce que vous avez déjà une idée d'une jauge qui pourrait être appliquée?
Alors l'objectif, si les conditions sanitaires le permettent, c'est de remplir le stade à plein. On pense, compte tenu de l'excellente stratégie qu'a mis en place Israël pour sa vaccination, que ce sera possible. Bien évidemment, s'il y a une évolution et que des nouveaux variants apparaissent et que le stade ne peut pas être suffisamment rempli, on s'adaptera.
Oui, j'imagine que ça faisait partie des choses aussi peut-être qui étaient dans la balance, en sachant que vous alliez potentiellement avoir un stade plein, ce qui Cette année est quand même
exceptionnelle.
Justement, vous parliez du rythme des vaccinations, du protocole suivi en Israël. Est-ce que il est déjà prévu que les joueurs et le staff des clubs qui viendront de France pour disputer ce match auront une obligation de se faire vacciner ou en tout cas un protocole sanitaire strict?
Ça fait partie de la logistique qu'on est en train de mettre en place, mais je suis à peu près certain qu'il sera demandé aux personnes qui feront le déplacement de justifier une vaccination. Et ça tombe bien, puisque la France progresse aussi à son rythme, même si c'est pas aussi rapide qu'en Israël dans sa politique de vaccination. Donc on pense être tout à fait en mesure de satisfaire à cette condition.
J'ai une autre question. Est-ce que le PSG n'est pas encore qualifié, n'est pas encore ni champion de France, ni vainqueur de la Coupe de France. Mais il y a des chances qu'il soit peut-être à Tel Aviv. Le PSG est détenu par le Qatar. Le Qatar n'a pas de relation diplomatique avec Israël. Est-ce que c'est une chose qui a été pensée, qui a été débattue? Enfin, est-ce que il serait envisageable, par exemple, que les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui sont qataris, ne viennent pas en Israël, ou est-ce que c'est une chose que vous n'avez pas prise en compte et que c'est uniquement la Ligue française, la LFP, qui conclut ça sans se soucier de l'identité ou de la nationalité des différents propriétaires?
Le choix de Tel Aviv est l'objet d'un dialogue et d'un vote au sein de la Ligue, et donc les clubs ont tous été informés, et Paris Saint-Germain siège au conseil d'administration et c'est était donc tout à fait informé de cette proposition. Ça n'a jamais été relevé par le club. Je n'ai pas du tout connaissance de qui représentera le club lors de l'événement, mais je suis sûr qu'il sera représenté.
S'il est amené à être là, puisque pour l'instant, il faut être champion ou gagner la Coupe de France pour ça.
C'est vrai, et c'est vrai que le dernier match ne permet pas encore de confirmer la position du PSG pour garder son titre. Mais bon, on va se dire qu'il y a quand même quelques chances que le PSG soit gagne la Coupe de France, soit gagne le championnat. En tous les cas, si c'est le Paris Saint-Germain qui participe, qui est l'une des deux équipes au Trophée des Champions, il n'y a pas eu de débat au sein de la Ligue au niveau jeu.
Bon, ben c'est assez rassurant et c'est une bonne chose. Non, je vous ai posé la question parce que hier j'ai vu fleurir, ce sont des bannières, des banderoles de supporters. Devant le Parc des Princes, il y avait une banderole visiblement de supporters qui disait « Après la Chine, Israël, le crime paie ». Est-ce que Israël, on le sait, quand on regarde par exemple n'importe quel site internet où il y a une news sur Israël, vous regardez le premier commentaire, vous savez que vous allez avoir souvent, en tout cas, des internautes qui se répandent. Est-ce que ça fait partie des choses que vous avez auxquelles vous vous attendez d'avoir des critiques? Alors j'entends bien pas du monde du football, mais est-ce que les supporters vous avez déjà une crainte qui est un rejet ou pas plus qu'ailleurs?
Écoutez, non, on n'a pas le sentiment que le choix d'Israël va générer des problèmes avec nos supporters qui seront insurmontables. Les choix de la Ligue, d'une façon générale, génèrent toujours de la polémique et des débats dans les médias, génèrent beaucoup de banderoles au-delà du Trophée des Champions. Donc on a l'habitude d'être faire l'objet de débats et de critiques et de polémiques. Et on n'attend pas à ce que ça cesse cet été avec le choix d'Israël pour le Trophée des Champions.
Bon ben, c'est une bonne chose aussi, voilà, de savoir que le choix d'Israël sera autant critiqué par les supporters qu'a pu l'être le choix de faire jouer le match en Chine ou ailleurs. Les pays sont du coup sur un pied d'égalité. Écoutez, merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. On souhaite une bonne réussite au Trophée des Champions à Tel Aviv et puis plein de bonnes choses à la Ligue, à la LFP pour les mois et les années à venir.
Merci beaucoup.
Merci Julien Taïeb.
Voilà, c'était l'entretien que Julien Taïeb, responsable des affaires juridiques de la Ligue française de football, de la Ligue de foot professionnelle, lui a accordé. Question, ma foi, je trouve bien pertinente de Samuel et pas de langue de bois non plus chez Julien Taïeb. Donc voilà, chacun se fera son opinion. Alors, on va parler, on va rester dans le foot et si vous le voulez bien, on va parler des demi-finales de la Croquis Cup qui a eu lieu ce week-end.
C'est quoi
la Croquis Cup? C'est une coupe, tu vois, que beaucoup de clubs espèrent pouvoir
croquer,
grandir, ouais. Croquer en fin de saison et bah c'est terminé pour Anderlecht et le rêve continue pour le Standard. Je vous propose de débriefer. On va rester chronologique puisque le Standard jouait samedi soir et que Anderlecht jouait hier soir. Eh bien, on va rester chronologique, disais-je, et on va débriefer avec le rouge parmi les rouges qui est avec nous, avec Steve Gris, le match Eupen Standard. Alors, bah, qu'en as-tu pensé?
Très heureux du résultat. On nous avait annoncé un terrain tout à fait pourri, un peu comme le terrain d'Ulto Aregem. J'ai trouvé que ça allait. Et de toute façon, je pense qu'aucune des deux équipes n'avait la possibilité de briller sur un gazon parfaitement lisse. Donc, de toute façon, voilà, le terrain n'a pas joué. Le Standard n'était pas, je dirais, était comme finalement dans les dernières semaines, il n'y a pas eu de coup d'éclat absolument fabuleux. C'était assez marquant en première mi-temps qu'il y avait un jeu qui était assez haché et surtout que les deux équipes commettaient énormément de fautes techniques. La fluidité dans le jeu est pour moi un des énormes problèmes du Standard. On fait deux, trois passes et puis finalement on ne se trouve pas. Il y a énormément de déchets. Il y a au milieu de terrain très peu de mouvement, de fluidité. On joue très vertical. Et donc là, malheureusement, j'avais le sentiment qu'on se trouvait très fort en comparaison par rapport à ces dernières semaines. Le Standard a eu un peu plus de réussite. Ils ont failli en début de deuxième mi-temps, le score a failli être d'un zéro. Eupen n'avait pas encore fait énormément d'actions en première mi-temps. Mais là, il y a eu un contre un avec une balle qui Bodard est sauvé par sa barre transversale pour le même prix et elle rebondit en plus un peu devant la ligne pour le même prix. C'était goal. Et puis il y a eu un éclair de génie, un seul.
Et c'est souvent le même génie quand même.
Et c'est marquant. Je suis d'accord avec toi, Blaise. C'est souvent le même génie et l'inquiétude, c'est que c'est souvent le seul génie.
Ouais, 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 ouais.
C'est le seul génie et qui n'est pas toujours là. Résultat des courses, ça manque souvent de génie. Mais en tout cas, ce génie-là, il nous en a sorti une belle, hein, en demi-finale.
Ah ouais, mais c'était une belle patate, comme on dit dans le jargon.
Une semaine avant, il met quasi la même en championnat. Enfin, c'est.
Moi, j'ai l'impression que c'est pas seulement du génie, c'est le seul qui a joué à son niveau.
En fait, j'ai un peu réfléchi cette semaine. Je me suis dit, fais le travail en disant, on va pas revenir encore à l'émission lundi avec toujours un peu les mêmes constats. Et finalement, de ma réflexion, j'ai revu quand même une partie de séquence du Standard ces dernières semaines. Et là où le bât blesse, à mon sens, le plus fort, c'est que ce milieu de terrain et ces individualités sont tous en deçà de leur niveau. En deçà du niveau attendu. Ou en deçà du niveau qu'ils ont pu avoir.
Alors, tu sous-entends quoi exactement? Je dirais un mauvais entraînement, mauvais entraîneur, mauvaise gestion des différentes personnalités.
Non, je ne sous-entends rien, je m'interroge. Je m'interroge, il y a eu deux entraîneurs qui n'ont pas réussi, en tout cas, à les faire évoluer sur plusieurs matchs d'affilée au niveau qui devrait être le leur ou le niveau qu'ils avaient déjà eu. Je ne sais pas la raison, mais en tout cas, le constat que je peux poser après avoir revu une série de parties de matchs ces dernières semaines, c'est que tout ce milieu de terrain, de Karchela, de Balikwisha, de Raskin, de Bastien,
de l'Estienne,
tu as tout à fait raison, l'Estienne, sont tous des joueurs qui individuellement ont performé, ou ont la capacité de performer, mais où on a l'impression qu'il y a un jeu stéréotypé en permanence dans ce milieu de terrain.
Et donc là, les regards se tournent vers l'entraîneur, clairement.
Oui, l'entraîneur, c'est forcément la première personne chez qui on va chercher, outre les joueurs. Et je me faisais la réflexion, un gars comme Klaus. On me pose souvent la question, est-ce que tu penses que c'est un bon ou c'est un mauvais transfert? Est-ce que c'est un bon ou un mauvais joueur? Et j'ai du mal à le juger.
Parce que je trouve que c'est un bon joueur, c'est un arracheur de ballons, c'est quelqu'un qui est très généreux dans l'effort, mais c'est quelqu'un qui vient tout le temps redescendre pour aller chercher ce ballon.
Oui, il n'est pas approvisionné.
Ah non.
Il ne reçoit pas de ballon, du coup il est obligé de faire tous ses efforts pour récupérer ce ballon comme
il
l'a dit.
Et il a toujours les joues toutes rouges comme ça, parce que on voit qu'il il est généreux.
À ce compte-là, Maxime Lestienne aussi, pourtant il n'en fout pas une ramasse ces jours-ci.
Mais il est généreux dans l'effort.
Ouais, ouais. Du coup il arrive devant le but et il est claqué. Et
ça a été marqué en contre Moucron, parce que j'ai revu les images de Moucron, il doit en mettre deux ou trois, où il manque de lucidité. Et à mon avis, le manque de lucidité, c'est notamment, et peut-être principalement dû au fait qu'il se dépense sans compter. Parce que les joueurs qui devraient prester au milieu de terrain sont pas à leur niveau. Mmh. Est-ce qu'on peut en vouloir à la direction de ne pas avoir mis les joueurs à niveau ? Finalement, j'ai envie de dire pas tellement, parce
est-ce qu'ils ont pas juste perdu leur niveau, tout simplement ?
Est-ce qu'ils ont perdu leur niveau ou une part de leur motivation ? Parce que, quand, à t'écouter parler, tu parlais de Joao Klaus, notamment, et de son abnégation, de son altruisme sur le terrain. Moi, on fait une petite incursion dans le match d'hier qui opposait Genk à Anderlecht. À la 89e ou à la 91e, moi j'ai vu Ito faire un sprint de 100 mètres, déborder toute l'aile droite ou l'aile gauche selon le cas de d'Anderlecht. Je me suis dit, mais enfin, il va pas se relever le gars. Eh bien, si, une motivation comme ça, on en trouve dans peu d'équipes et dans le chef de très peu de joueurs. Donc je me demande s'il n'y a pas aussi un problème de motivation.
Oui, mais je suis étonné parce que bon, il y a Montagnier, puis il y a Ley, on peut se dire que voilà, ils vont vouloir prouver, en tout cas s'il y avait un conflit, ce qui n'avait pas l'air avec Montagnier, ils vont vouloir montrer avec Ley qu'ils ont le niveau.
Ils l'ont fait pendant un mois.
Ouais, c'est ça. Ouais. On avait eu la discussion un jour ici de l'effet psychologique d'un changement d'entraîneur, et ils l'ont fait sur les trois matchs d'affilée qu'ils ont gagnés, les trois, quatre matchs, je sais plus, c'était quoi, quatre matchs d'affilée qu'ils avaient gagnés. Il y a eu l'électrochoc, ils ont montré à l'entraîneur que ce dont ils étaient capables, et puis maintenant, voilà, ils ont eu leur finale de coupe, le championnat, ils sont finis, il y a plus de play-off. Donc je pense
j'ai envisagé le négatif en disant que je trouvais que le fond de jeu, la fluidité, c'est un problème. Mais là, ils ont fait le job. Il fallait aller gagner à Eupen. Eupen, c'est pas les premiers venus. Eupen n'a pas eu beaucoup d'occasions. Donc là, je pense qu'ils les ont quand même bien étouffés au milieu de terrain avec la défense. Bocadi a fait un gros match, a répondu tout à fait présent. Donc voilà, je vais pas bouder mon plaisir dans cette saison plus que mitigé. Et je suis encore, je pense,
gentil,
très positif en le disant ça, dans cette saison très difficile. Aller gagner à Eupen, ils ont fait le job. Alors, c'est 0-1, pour le même prix, il y a Amala en met un deuxième, parce qu'il en rate un, je dis pas tout fait, parce que c'était pas, fallait pas mettre le ballon uniquement, fallait pas juste appuyer pour mettre le ballon dans le goal, mais tout de même, il aurait pu le marquer. Ça aurait été 0-2, on en aurait un peu moins parlé. Là, jusqu'à la fin, alors on stresse un peu.
Une question peut-être un peu vicieuse, Steve, Blaise ou Henri, mais bon, c'est aux supporters des Rouges que je m'adresse. Bien sûr qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. On connaît l'adage.
Et là, il a dit pour la demi-finale.
Mais est-ce que finalement, imaginons le scénario, le Standard gagne la coupe, est-ce que à tout prendre, ce ne serait pas plus négatif que positif ? Je parle dans l'évolution du club, parce qu'ils vont peut-être s'asseoir en disant on a gagné la coupe, c'est qu'on n'est pas si mauvais, et que ce serait l'arbre qui cache la forêt.
Ce serait inquiétant de s'asseoir là-dessus quand même.
Je suis d'accord avec toi.
Je sais que les Saints, souvent,
se satisfait très très vite.
Il ne faudrait pas se cacher derrière ça, parce que cette saison, elle est catastrophique. Qui gagne ou qui gagne pas cette coupe, leur saison est catastrophique.
En fait, la sous-question que j'avais, c'était, s'ils ne gagnent pas et que malheureusement ils ne se qualifient pas pour les play-offs, c'est vrai que c'est une saison pourrie à oublier, mais alors peut-être qu'ils vont remettre le métier sur l'ouvrage ou l'ouvrage sur le métier, et que là ils vont repartir d'une page blanche et qu'ils vont peut-être revenir plus fort.
Alors je ne suis pas d'accord avec toi sur deux points. D'abord le premier point.
J'adore.
Le premier point, c'est que non, à Sclessin, on ne se satisfait pas. Le Sclessin est un public exigeant. Alors, j'ai toujours entendu qu'Anderlecht avait un public exigeant. Je ne sais pas s'ils ont un public. C'est pour ça qu'il n'a en rit.
Mais la question se pose, c'est un public, le
public est exigeant à Sclessin, parce qu'ils ne vont pas ça ne va pas s'oublier, ces difficultés.
D'accord.
Et en plus, les difficultés, on les connaît. Elles sont juste, peut-être l'expression et le mécontentement est plus exacerbé dans une spirale négative. Mais je pense que tant les supporters que la direction sont parfaitement conscients du fait que ce ne sera pas l'arbre qui cache la forêt.
Je l'espère, je le souhaite, parce que c'est vrai.
Et le deuxième point, c'est que est-ce que il vaudrait mieux qu'ils ne gagnent pas la coupe pour vraiment identifié, je ne pense pas.
Non, non.
Pas dans le football moderne.
D'accord.
Dans le football moderne, on est dans des spirales positives ou négatives. Et spirales positives à tout niveau. Si le Standard se qualifie, ils vont être en Coupe d'Europe. S'ils sont en Coupe d'Europe, c'est des rentrées d'argent, donc des possibilités de faire des transferts. C'est la possibilité aussi de pouvoir convaincre un certain nombre de joueurs de rester. C'est la possibilité de aussi attirer des joueurs qui vont être attirés par ça. Et donc, il ne faudra pas fermer le livre en disant finalement la saison ça a été mi figue mi raisin mais ça a été on a quand même gagné la coupe. Non,
il faudra s'appuyer dessus pour oui. lancer la saison prochaine.
Mais et Anderlecht en est un exemple, quand on est dans une spirale négative, c'est dur d'en sortir. Donc prière de pas négliger ça.
D'accord.
Et de pas se dire allons jusqu'au bout de la saison pourrie. Non.
Okay. Je pense qu'ils avaient déjà fait le coup quand la dernière victoire en coupe si je dis pas bêtise avec Ferreira comme entraîneur.
Non, avec Sapinto, je pense, en 2018.
Oui, exact.
Mais non, c'est, en fait, ils ont gagné ces dernières années. On rigole toujours qu'ils ne sont jamais champions, mais ils ont gagné deux coupes en trois ans d'intervalle. Et maintenant, s'ils gagnent, ça fera en cinq ans leur troisième coupe.
Hein. L'année où ils ont gagné avec Ferreira, je pense qu'en championnat, ils étaient à la ramasse, si je ne dis pas de bêtises. Ça avait sauvé la saison.
Tu as peut-être une meilleure mémoire que moi, parce que moi, les saisons où on est à la ramasse, je commence à les confondre avec le temps.
Merci pour l'honnêteté. Eh bien, à propos de ça, on va...
Oui, à propos de ça.
Quelque chose d'autre à dire sur le match Open Standard encore, avant de passer à l'autre demi-finale.
Mais je pense en tout cas que le Standard peut vraiment, vraiment être content. On va y venir un petit peu déçu que ce soit pas un classico en finale. Mais pour moi et pour de nombreux, ça va être le match de la saison. Et on se réjouit aussi pour la Coupe de Belgique, parce que on a eu des Lommel et Keren à un moment en finale de la Coupe, tellement on s'en désintéressait. Et là, un Standard Genk, et ça aurait pu être un Standard Anderlecht, qui aurait encore été mieux, c'est une affiche pour tous les supporters très chouette, mais pour les supporters neutres aussi, on se dit, on va passer un bon samedi soir.
Ben, c'est ça aussi, c'est que maintenant on est un petit peu, j'ai l'impression, victime de cet effet Covid, c'est que en temps normal, avec des stades remplis, c'est une affiche merveilleuse, parce qu'il y a un antagonisme dingue entre les deux clubs, on le sait, c'est presque aussi rival, autant de rivalité entre Genk et le Standard qu'entre le Standard et Anderlecht.
Non, mais il y a un côté, Genk est un club assez récent, issu d'une fusion.
Mais c'est toujours très chaud.
Ils sont, je pense, à 30 km d'intervalle, les deux stades.
Voilà. C'est un derby, quelque part.
Il y a beaucoup de supporters limbourgeois du Standard.
Énormément. Au Standard, il y a 30% de supporters néerlandophones et la plupart sont limbourgeois.
Eh bien, comme quoi...
Je pense que moi, j'aurais bien voulu aider le Standard, en fait. C'est-à-dire en arrivant en finale pour augmenter la motivation du Standard.
Et je pense que pour les deux, honnêtement, moi, tous les supporters du Standard avec qui j'ai parlé étaient un peu déçus. Parce qu'on a, il n'y a rien à faire. On adore détester son rival. Mais on adore qu'il existe. On adore le rencontrer.
C'est le principe du jeu. Hein.
C'est des chouettes moments de foot.
Ah oui.
Bien sûr. Bah, quelle que soit la finale, comme on dit, une finale, ça se déguste toujours. Bien, on passe à la deuxième demi-finale. On va débriefer maintenant le non-match d'Anderlecht hier, qui recevait, parce qu'en plus c'était au Lotto Park, qui recevait Genk. Puis score final 1-2. Il faut savoir pour nos auditeurs qui n'auraient pas suivi le match qu'à la 65e, si je ne dis pas de bêtises, le dernier défenseur arrête Nmecha et reçoit à juste titre, je pense, une carte rouge. Et donc Anderlecht se voit en supériorité numérique malgré que mené au score. Et là, eh bien justement, rien. En tant que spectateur neutre que je suis, franchement, je me suis dit que c'était un oiseau pour le chat pour les 25 dernières minutes. Je n'ai même pas vu une pression. On a vu, bien sûr, une pression territoriale, puisqu'il y avait un joueur de moins et que les Genkois ont joué comme des morts de faim. Mais il n'y avait rien dans cette équipe d'Anderlecht. Il n'y avait rien.
C'est étonnant parce qu'il y a eu, un switch. Normalement, il y a un switch. Donc, c'est 0-2 à ce moment-là. Il y a le carton rouge et il y a le but qui suit sur le coup franc qui a été sifflé à ce moment-là. Donc, en général, on se dit, tiens, c'est.
Il y a un adjuvant.
Il y a un basculement. Bien sûr. De confiance. Et il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de suite. Pourtant, il y a eu 5 changements. On a changé tactiquement. On a fait monter, peut-être pour moi, trop tard, très belle dans le centre. Je suis déçu. Déçu sportivement parce qu'effectivement, c'était une façon, comme pour le Standard et comme pour tout le monde, d'arriver à un objectif cette saison. Donc, je suis évidemment déçu de ne pas être qualifié, mais déçu surtout de
la manière.
De la manière, c'était terrible. C'était ce manque de réaction. Ça, c'est à la fin, mais le premier quart d'heure, ils étaient absents, ils prennent le premier goal. On se dit, ils vont enfin commencer le match. Pas du tout. Et les joueurs, on en parlait hors antenne avec Steve, on parle de compagnie, etc. Pour moi, sur ce coup-là, c'est les joueurs sur le terrain qui avaient les clés, quoi.
Oui,
ils n'ont pas presté au niveau Sambi était à côté de la plaque.
Quand tu vois le deuxième but, c'est deux erreurs individuelles, mais vraiment scandaleuses, quoi. Sardella qui recule, et puis Miasga qui envoie cette frappe dans son but. Enfin, c'est pas possible, quoi.
C'était assez impressionnant. Mais si quelqu'un devait marquer contre son camp, c'était lui. Hein.
Mais ouais, parce qu'il a tout fait à l'envers pendant tout le match. Et son carton jaune, c'est Didier qui en parlait hors antenne. Enfin, qu'est-ce qu'il fait, quoi?
Ouais, Miasga, là, c'est... Voilà.
Mais c'est assez collectif comme...
Ouais, c'est une déroute collective. Ouais.
Mais en vous écoutant parler, et surtout en ayant entendu ce que Steve disait, il parlait de l'entrejeu, là, tout à l'heure, Steve, du Standard. Et tu entends les noms Balikwisha, tu entends Carcella, tu entends Bastien. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, tu dis ça au Kidam, les gens vont dire, ah, il parle du Standard. Au jour d'aujourd'hui, quand tu entends Miasga, alors peut-être Sambi excepté, très belle excepté, mais tous les autres, je le répète à longueur de semaine, j'ai l'impression que Anderlecht est presque devenu une équipe anonyme en termes de d'individualité.
Mais ça fait
à deux ans, tous les étages.
C'est incroyable.
Henri qui en parle régulièrement.
On connaît rien. À part Compagnie, on connaît rien de ce club. On sait pas ce qui se passe.
Il y a un problème identitaire, mais.
Mais c'est terrible. Il y a aucun joueur emblématique en fait. Il y a plus rien.
C'est pour ça que je pense aussi c'est difficile pour les joueurs d'avoir une adhésion quand on arrive dans une institution, je sais pas, n'importe qui arrive au Barça, ben, quel que soit son niveau, il rentre dans un temple.
Oui, mais d'un autre côté, tu vois...
Anderlecht, en toute proportion gardée, les gens arrivent à Anderlecht, je veux dire, Lorenz, je pense que Anderlecht, ça lui parle pas, quoi.
Non, mais c'est... Enfin, je sais pas, le Barça, j'ai l'impression qu'Anderlecht, il y a 11 nouveaux joueurs, en fait, que tout le monde doit découvrir. Je doute qu'au Barça, un jour, ils changent les 11 joueurs et puis que tu auras 11 nouveaux noms.
Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je m'en viens à être surpris des fois de regarder un début de match d'Anderlecht et de voir la compo.
Oui.
Et de devoir googler un joueur. En me disant, tiens, il est là depuis longtemps,
chaque semaine, tu découvres un nouveau joueur.
Ce qui n'arrivait pas il y a quelques années.
Non. Ben, du temps de Lukaku, quand il a commencé, il avait 16 ans. Eh bien, on l'a découvert, c'était un produit du club. Et au jour d'aujourd'hui, les produits du club, on nous les vend après, quand ils ont brillé. Mais ils arrivent un petit peu comme des ovnis, quoi. C'est plus... Je sais pas, c'est peut-être un problème de com' en même temps, j'en sais rien. Mais ça devient anonyme, quoi. C'est malheureux.
Oui, j'ai l'impression que c'est une période transitoire qui se prolonge.
Oui, mais ça fait deux ans.
C'est
trop long, là.
Mais Compagnie a réclamé 2 ans. Il a dit, on verra dans 2 ans. Ça, il l'a dit avant cette saison-ci.
C'est vrai.
Donc, si on doit lui faire confiance encore.
Attention.
Eh bien,
la seule chose positive, c'est qu'effectivement, il n'y aura pas d'arbres qui vont cacher la forêt. S'ils étaient qualifiés pour la finale, éventuellement, ils l'auraient gagné. Bah, peut-être que ça aurait couvert certaines lacunes qui sont structurelles. Hein,
mais eux, ils seront en play-off, vraisemblablement.
Du coup, si jamais ça s'était arrivé, une victoire en coupe plus des play-offs 1, c'est quand même une bonne saison. Comparé à ce qu'on disait tout à l'heure sur le Standard qui n'a pas les play-offs 1 et qui va peut-être gagner la coupe, c'est pas une super saison. Alors que là, quand même, Anderlecht, il ne faut pas les enterrer. Bon, ils ne seront pas champions, mais ils ont des moyens d'aller chercher la Coupe d'Europe, quoi.
Mais plusieurs fois, ils ont eu, en connaissant les résultats des adversaires, l'occasion de terminer par une victoire, se retrouver deuxième ou troisième du classement. Ils sont passés à côté à chaque fois.
Mm-hmm.
Donc je sais pas, il y a un problème d'implication. En tout cas, le match de dimanche, c'est qualitativement, c'était pas au niveau, quoi. Ils auraient pas été mieux.
En fait, ce que j'ai noté, moi, et je répète en tant que spectateur neutre, c'est que les caméras sont très souvent fixées sur Vincent Compagnie. Et j'avais cette sensation, il me donnait cette sensation de ce sentiment d'impuissance.
Sur le premier but de Miasga, il a une tête, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que... Enfin,
c'est vrai.
C'est
hein.
de l'impuissance, il se dit, mais...
On a l'impression qu'il regarde le match, en fait. On n'a pas...
Et qu'il est en train de se dire,
il a été défenseur. Hein,
oui,
c'est pas très rigolo, quoi, de voir ça.
En plus.
Oui, mais
Onuachu, en plus, joue bien le coup sur ce premier goal.
Ah ouais, on y reviendra, parce qu'Onuachu, ça, c'est... Un, il fait un gros match. Deux, il les enchaîne, les gros matchs. Et trois, ce serait un profil idéal aujourd'hui dans une équipe comme Anderlecht.
Je sais pas, les centres n'arrivent pas.
Mais vous savez, on dit, c'est un process, Compagnie, il lui faut 2 ans, mais... Moi, ce qui me fait vraiment...
C'est pas qu'il lui faut, il a réclamé 2 ans.
Il a réclamé 2 ans. Mmh. Ce qui me fait dire qu'on est dans une période transitoire qui se prolonge de manière assez inquiétante, c'est que le rôle de Compagnie n'a été défini que très récemment. Pour rappel, il est arrivé comme joueur-actionnaire.
Joueur-entraîneur,
il a été annoncé comme joueur-manager, qui n'existe pas.
Joueur-manager, oui, mais puis on a mis quelqu'un d'autre comme actionnaire, et puis après c'est entraîneur-adjoint, puis entraîneur. Enfin, sa situation, le fait est qu'on l'a fait venir pour la marque Compagnie.
Bien sûr.
Parce que nous avions une direction... qui prenait la place d'un actionnaire historique familial, qui, évidemment, où tout le monde s'identifiait. Là, maintenant, on a enlevé le nom du stade, on a un actionnaire, et ça s'est pas bien passé en plus, qui est parti avec un actionnaire, enfin, en tout cas, un actionnaire beaucoup plus anonyme, avec un projet sur lequel il faut essayer de raccrocher les supporters, mais qui est peu identifiable, et donc on s'est dit, on va mettre la marque Company. Mais on met la marque Company où? C'était ça la question qui s'est posée. Tiens, on va lui donner des parts. Oui, et puis on va le faire encore jouer fin de carrière en revenant. Ah oui, non, mais finalement, la carrière, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée. On va le mettre comme entraîneur, même s'il a pas le diplôme ou il a pas l'expérience. Et donc, on a vraiment le sentiment de nager dans une quête d'identité.
Et y a deux choses, moi, qui m'ont marqué. Vous allez peut-être penser que c'est superflu, mais déjà, de un, on a changé les deux sponsors historiques du club. Et hier, Anderlecht joue à domicile contre un maillot blanc et il joue en noir.
Exact.
Il joue pas en mauve, alors qu'il joue à domicile et qu'il n'y a aucune raison de jouer en noir.
Enfin, non, c'est pour les supporters, ça passe identifié.
Et moi, j'ai eu du mal, je vais t'avouer, parce que j'ai pris le match en deuxième mi-temps. Oui, quand il reçoit la carte rouge, j'avais l'impression qu'on donnait la carte rouge à un Anderlechtois, et puis j'ai dû switcher en disant, ah mais non, les blancs, c'est...
C'est parce que tu t'es endormi entre les deux. c'est un peu tard.
Méchant.
Il y a encore un dossier qui a été enterré.
Non, mais c'est vrai, en plus.
Dans tout ce maelstrom, quand Compagnie est arrivé, c'est le stade, qui était un dossier chaud, brûlant, disparu. Donc on parlait de Duhaizel ou sur le parking C Duhaizel du stade national et qui éventuellement Anderlecht jouerait là-bas. On a parlé de l'amélioration du stade actuel, on a parlé de Nerpen. Tout ça, on en parlait beaucoup, puis c'est de nouveau oublié. Donc quand on parle de projet global, quand on voit ce qui est en train de se construire à Bruges, ce qui se construit même dans d'autres clubs, Anderlecht, je ne sais pas, il y a un vrai, vrai gros problème. Pas que sur le terrain, quoi.
Non, c'est vraiment à tous les étages qu'il va falloir stabiliser et donner une orientation. Mais c'est vrai que quand, et je suis d'accord avec Didier, quand on voit pour en revenir, parce qu'on parle maintenant en général, mais et qui se reflète sur l'équipe, mais quand on voit cette équipe, oui. Et moi, je suis ceux qui sont partisans de penser que Company, dans le contexte actuel, fait pas un mauvais job.
Moi, je pense aussi.
Je suis
d'accord avec toi et je trouve que les critiques envers Company sont vraiment dures. Parce qu'il a pas d'équipe, tout simplement.
Oui, mais il a eu aussi, de mon point de vue, alors je vais pas dire un chèque en blanc parce qu'on sait qu'ils sont dans le rouge, etc. Mais en termes de philosophie, en termes de personnalité, il a eu un crédit, un chèque en blanc absolu.
Un chèque en bois plutôt.
Oui, non, mais c'est clair. Mais bon, ils nous ont tellement vanté l'école Nerpede et d'office. Il y a vraiment des petites pépites là-dedans qui partent.
Mais c'est ça le problème, c'est que maintenant, dès qu'ils ont 18 ans, ils partent.
Mais alors
ça blesse, ça c'est un problème général. Hein.
Mais le problème,
mais c'est pas que
Ils laissent tout partir. Garde au moins une pépite pour toi, une poire pour la soif, comme on dit. Mais c'est pas normal.
Arrive à garder ses pépites en Belgique à part Bruges aujourd'hui?
Je pense que Genk, ils ont eu des pépites qu'ils ont réussi à garder, ou en tout cas suffisamment de temps que pour qu'elles prennent encore de la valeur et de pouvoir les vendre plus âgées à un tarif. Je vais pas donner des noms, mais tout le monde connaît l'école de Genk. Le Standard aussi avait l'académie.
Oui, c'est avec des hauts et des bas. Il paraît que là.
Là, ils ont sorti quand même Tarasquin.
Ils en ont sorti quelques-uns et il paraît que les U18, c'était les futures stars mondiales. C'est ce qui se dit du côté de Sclessin, mais on n'est pas trop marseillais non plus là-bas.
Au niveau du recrutement, t'avais Verskuren qui était venu, qui était parti, qui était viré, qui revient dans.
Mais là, en fait, on parle. Mais quelque part, on parle de tout sauf de foot pour le moment. Parce que finalement, c'est ça. Je veux dire, on a eu dans cette émission, puisqu'on est là depuis le début de la saison, je dirais, une fois c'était à l'infirmerie complète. Et c'était vrai. C'était pas du mensonge, mais quand tout le monde revient, c'est pas mieux. Après, on dit, le process, il faut laisser le temps. Et puis, alors, on a tout à coup une éclaircie avec une victoire ou deux à Genk ou un match référence, je ne sais plus, contre l'Union, le Bierskot. Je ne sais plus, non, l'Union, c'était différent. C'était un match de coupe, et puis c'est une D1B, donc ce serait quand même anormal.
Ils ont battu Genk, ils avaient fait un 2-3-1.
C'est ce que je disais, ça c'est un éclair et tout le monde crie au génie. Et puis après, de semaine en semaine, on se dit la même chose, j'ai l'impression presque qu'on radote. Et donc, le problème, il est clairement aussi footballistique, quoi. Parce qu'on parle des actionnaires, on parle du Lotopark, on parle de tout sauf de foot en définitive. Et c'est quand même sur le terrain, les scores, c'est pas le stade qui le fait, hein. C'est les joueurs.
Je trouve en tout cas que moi, que Company, pour parler du terrain, il a le mérite tout de même d'avoir, dans sa philosophie, j'ai toujours dit que le process, ça cachait le chèque en bois. Mais que, en tout cas, il y a clairement des jeunes qui sont très intéressants et que Company a réussi à tout à fait les mettre en valeur.
Tout à fait.
Et je trouve ça vraiment formidable. Il a aussi, comme il a pu, tenter de créer une équipe et il y est pas mal arrivé, non pas en fonction du nom d'Anderlecht, parce que le nom d'Anderlecht ne peut pas se retrouver si bas, mais simplement le noyau qu'il a n'est pas digne d'Anderlecht. Et avec le noyau qu'il a, avec les jeunes qu'il a promis de mettre en avant, pour lui qui est un entraîneur débutant aussi, hein,
c'est clair.
Je trouve qu'il a pas fait un mauvais boulot. Et psychologiquement, au niveau des médias, il gère très bien. Au niveau de la protection de son équipe,
clairement,
il gère très bien.
Au niveau de la com,
il y a le cas très belle que je ne comprends pas, mais que je pense personne ne comprend. Et personne ne sait.
Il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir autre chose. Parce que
c'est le plus gros salaire.
Quand il revenait de blessure, à la limite, ça se comprenait. Mais là,
je comprends pas.
Il doit y avoir quelque chose. Peut-être un manque d'effort.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le cas très belle et le cas Carcella?
Non,
par exemple,
non, j'y ai pensé aussi un moment.
Non,
le cas Carcella, moi, à mon sens, est un peu plus clair dans ma tête, vu en tout cas ce qui s'est passé cette année. C'est clairement un joueur sur le déclin.
C'est ça.
Et alors peut-être qu'il va avoir un pic où il va revenir, mais il est clairement, on l'a vu, voilà, ce qu'Amala a réussi à apporter.
C'est ce que Carcella arrivait à faire avant.
Non, je pense que Carcella était au-dessus de ce qu'Amala prouve maintenant. Parce que Carcella avait vraiment cet éclair de génie en plus. Amala était un très bon joueur. Carcella, il avait le petit côté au-dessus qui fait que ça a attiré vraiment les sirènes de bons clubs étrangers.
Il a un gabarit qui est plus propice.
Mais Carcella, on lui a donné sa chance.
Mais oui.
Il est arrivé, il lui a donné les clés du truc.
Très belle. C'est pas un joueur qui est très âgé. C'est un joueur qui est un énorme salaire. C'est un joueur qui, en plus, quand il monte, et que les rares fois où il joue, on voit qu'il apporte une plus-value, hein. Toujours. Hein.
Et même justement, dans cette équipe en manque criant d'expérience, c'est le genre de joueur qui ferait beaucoup de bien au milieu. Quoi.
Et alors, les recrues du mercato d'hiver, hein, Larsen.
Ouais, là.
Bof.
Bah, enfin, il arrive aussi dans une voiture pourrie. Hein,
Diaby est prometteur, parce qu'on a historiquement un souvenir de Diaby, mais il n'a pas encore montré sur le terrain.
Non, il ne faut pas. Tu sais, on a dit ça un moment de Vargas, on a dit ça un moment de Diaby.
Mais je pense que c'est très difficile, parce que les mercato de Noël, il reste peu de matchs. On est en général à deux tiers du championnat quand ça arrive. Et il faut que les joueurs soient opérationnels et performants tout de suite.
Tout à fait. Mais je veux dire, moi, ce que je voulais dire par là, c'est qu'Anderlecht a pris pour habitude de reprendre des joueurs de la concurrence, qui sont partis de la concurrence. Et ils font des mauvaises pioches, quoi. Parce que Diaby, il est parti de Bruges, pas parce qu'on a fait une affaire en or en le vendant. C'est parce qu'il ne répondait plus aux attentes.
Ouais, et c'est toujours des gars, justement, qui ratent à l'étranger et qui veulent revenir en Belgique parce qu'ils ont bien joué en Belgique. Ils reviennent à Anderlecht et ils jouent pas bien Anderlecht.
Non, c'est clair.
Chité, Ezekiel.
Après, oui, ça c'est un moment où ils adoraient, où j'ai toujours dit, c'était le moment où Van Olsbeek rêvait d'acheter l'âme du Standard.
Ouais,
c'était son rêve le plus fou.
Et donc
il utilisait son argent pour essayer d'avoir cette âme. L'âme, on sait, ne s'achète pas, mais il utilisait le maximum, enfin c'est historique, hein, le maximum pour essayer d'avoir cette âme qui n'a évidemment jamais réussi, parce que c'était un leurre. Enfin, ça c'est un autre débat. Mais le mercato d'hiver, c'est que on a un club qui n'a pas beaucoup d'argent, on a un club qui a des besoins immédiats et donc on recherche du prêt, parce que finalement c'est le moins cher, et on recherche quelqu'un qui connaît un peu le championnat, parce que c'est pas pour préparer quelqu'un pour l'année suivante,
pour
comme c'est des fois c'est le cas.
Oui,
voilà. Et donc on fait les quelques pioches pas chères qu'on a sur le marché.
Je suis d'accord, mais d'un autre côté, bon, mais on n'est pas en Champions League non plus. Quand tu vois des clubs comme Courtrai, comme tu vois des clubs comme Ostende qui transfèrent, le mercato d'hiver il est le même pour tout le monde, et les budgets étant ce qu'ils sont, je pense que leur budget n'est pas nécessairement supérieur à celui d'Anderlecht, et eux font des bonnes pioches. Et eux font de bons
transferts.
C'est
tellement plus facile d'arriver à Ostende qui est dans une saison parfaite.
On est d'accord.
Que d'arriver à Anderlecht avec le poids de l'histoire.
Oui, mais je ne parle pas de cette année uniquement, je parle de chaque année. Ça fait des années que c'est récurrent, les problèmes de transfert dans les grosses cylindrées, j'ai envie de dire. Que ce soit au Standard, Anderlecht.
On sait que c'est imposé dans ces clubs-là. D'abord, on n'entend même pas qu'ils sont transférés pendant le mercato d'hiver. On s'en rend compte après quand ils jouent pas mal.
Et parfois, on les achète en hiver pour qu'ils arrivent en été. Donc,
quand un joueur arrive à Anderlecht et au Standard en hiver, dès le premier match, on dit, tiens, est-ce qu'il y a des balles chez nous ou ailleurs, quoi.
Ouais,
est-ce que c'était un bon transfert ou est-ce que c'était pas un bon transfert?
Imagine la pression sur Hazard. Hein, on en reparlera tout à l'heure. Je voudrais poser une dernière question à vous trois, avant d'aller à la mi-temps. Tu parlais des jeunes. Je me demande si finalement, les jeunes que Compagnie veut mettre en vie veut mettre en avant, n'ont pas trop de pression, parce qu'on dit toujours oui, à Bruges, finalement, ils ont des pépites, c'est vrai, mais De Ketelaere est rentré sur le terrain. Moi, j'ai entendu parler de ce Ket, parce que c'est un Ket. Hein. La première fois, il était au stade au Paris Saint-Germain. Tout le monde a dit, qu'est-ce qu'il lui prend, Clément, c'est un malade. Et puis, boum, et puis Van der Bremt aussi, qui est un illustre, enfin pour le supporter que je suis, mais que je connais pas bien l'académie. Et c'est chaque fois, tu te dis ah ben oui, ben ils ont quand même des bons jeunes à Bruges, etc. Mais il faut oser. Mais ils sont peut-être dans un cadre, voilà. Ils sont peut-être mieux encadrés.
Le problème en Anderlecht, c'est que en fait c'est 9 joueurs sur 11 et que c'est sur eux qu'on compte pour
c'est
gagner
ça.
Des matchs.
On leur donne directement exactement. Un statut de pompier.
Alors qu'à Bruges, tu as des Vormer, des Van Aken, voilà. Des gars qui les accompagnent
on
sur le terrain.
Et aussi, leur... ils ont dû, mais ils ont assumé. T'as Raskin qui a pris les choses en main. T'as Bodard, t'as Siquet.
Oui, mais en même temps.
Mais qui sont entourés par
allez, des. Ouais, mais... Quand tu penses que le taulier Anderlecht, c'est Sambi, quoi.
Ouais, c'est, mais
alors,
c'est le capitaine.
J'adore le joueur, il est fantastique, mais 19 ans, quoi. Ouais,
enfin, le parallèle que tu fais très justement avec Bruges donne une réponse, en fait, toute trouvée, comme l'a dit Blaise. C'est que le joueur à Bruges arrive et il vient compléter
exact.
Une très belle équipe qui est déjà, et il vient apporter, on se dit, waouh!
Il est entouré.
Et il arrive
et il
sur le terrain. Kettler arrive ou quand il est monté, c'était l'année passée qu'il montait en jeu, on se dit, waouh! Il intervient et en plus lui aussi à côté de tous ses cadres à Anderlecht, on dit où sont les cadres? Ah mais on a plein de jeunes, hein, c'est le process. Et donc ces petits jeunes endossent toute la responsabilité et ne sont pas les jokers.
On est d'accord. Mais ce sont les pompiers de service et ils sont pas formés pour.
Tu parlais de Lukaku, il est rentré dans une équipe qui était en place.
Oui.
Kompany est rentré dans une équipe qui était en place.
Tielemans.
Oui, mais enfin Lukaku, Kompany, c'est des cas aussi, c'est des stratosphériques. Hein.
Non, mais quand il démarre, on le sait pas.
Non, c'est clair. Enfin, nous on le sait pas en tant que supporters, mais je pense que les foot et les professionnels, les scouts et compagnie ou les formateurs, ils savent très bien quand ils ont une vraie pépite ou quand ils ont une pépite que. Hein, j'ai l'impression. Ou alors ils doivent changer de boulot.
Il y a eu Oscar l'année passée.
Oui, mais lui, pas de chance aussi. Il est souvent blessé. Puis directement, enfin, je veux dire, aussi, on les vend. Doku, c'était une petite merveille. Il n'a même pas eu le temps de lasser ses chaussures qu'il était déjà parti.
En même temps, 25 millions pour un joueur sorti du centre, c'est tout bénef. Quoi.
Mais on est d'accord. Mais alors à ce moment-là.
Là, on ne voit plus football.
Ouais, voilà. Non, bien
ouais,
sûr.
C'est... T'as envie de dire qu'ils jouent deux saisons et ils le vendront 35.
D'accord. Ce que je vous propose, parce que le temps file.
N'oublions quand même pas de parler de Genk.
Hein. Oui, tout à fait.
Qui, honnêtement, magnifique équipe. Et indépendamment de ça, ils sont très agréables à voir jouer. Ils ont cet attaquant là,
Onuachu
qui est terrible.
Ah, c'est une bombe atomique.
Vraiment, voilà, il n'y a pas qu'Anderlecht qui a perdu. Il y a aussi un très bon Genk.
Et propre. Parce qu'avec son gabarit, ouais, c'est pas
c'est
évident d'être propre comme
ouais,
ça. C'est pas un...
Favori pour la finale.
Mais à Genk, il n'y a rien à faire. Hein. Ils nous font toujours des surprises, que ce soit
c'est
des
vrai.
Jeunes ou des bons
c'est
transferts,
vrai.
Et toujours dans le beau jeu.
Et dans la mentalité aussi.
Les années passent, et c'est toujours quand même une équipe où il y a une constante, c'est très agréable à voir jouer.
Et je voudrais pas te faire de la peine, Henri, mais John Van Den Brom...
Ah lui, il doit être content, il a bien dormi, lui.
Ah ben, c'est clair, et en même temps, c'est une belle revanche, parce que c'était vraiment...
C'est plus le même club, c'est pas le même dirigeant, etc.
On est d'accord, mais quelque part, Anderlecht a pris aussi... On va pas remettre en question tout ce qu'on vient de se dire, on sait qu'il y a des problèmes, mais ils ont aussi pris une leçon, quoi. Il n'y a rien à faire, tu n'as pas l'impression qu'ils font le même sport, les joueurs des deux équipes par moment. Bien, avant de parler de Champions League après la mi-temps, je propose qu'on termine la Belgique avec le match d'alignement qui a eu lieu, si vous êtes d'accord bien sûr. Et je vais vous demander votre avis, parce que moi je ne suis pas neutre en l'occurrence, puisque Bruges se déplaçait à Charleroi. Vous vous souvenez que le match avait été remis en raison du fait que les Carolos n'avaient pas été capables de déneiger un terrain, alors que les Saint-Gillois l'avaient fait pour accueillir, Anderlecht, tout à fait. Donc voilà, et donc le match avait lieu, et score final, un but partout. Je vais juste vous donner mon avis au départ, et puis après, je vous laisse tranquille. J'ai l'impression que la seule chose qui a manqué à Bruges, c'était de tuer le match, parce qu'il y avait moyen de le tuer clairement. Pour le reste, chapeau bas à Charleroi pour la mentalité, parce qu'en première mi-temps, il n'existait pas, parce que je pense qu'ils ont pas franchi deux ou trois fois la ligne médiane, si ma mémoire est bonne. Mais alors justement, on parlait du standard, on parlait d'Anderlecht, quelle belle mentalité de remonter sur le terrain. Tu joues face au futur champion, normalement, en tout cas, c'est ce qu'il se dit. Tu n'es nulle part parce que t'as pas touché un cuir pendant 45 minutes et tu remontes avec le couteau entre les dents.
Et avant le but, Mignolet en sort une super. Wow.
Enfin,
certes, c'était dans les 15 dernières minutes, mais dans les 15 dernières minutes,
tout
ils ont
fait.
Poussé quoi.
Ah ben, ils ont poussé et ils ont mis Bruges à mal, je pense, ça c'est clair. Je vous laisse débriefer ce match tranquille.
Mais pour une fois, Bruges, en général, ils ont de la maîtrise. Et là, ils n'ont plus. C'était assez étonnant.
Dans les dernières 20 minutes, non, t'as raison.
En général, ils maîtrisent le match, même, que ce soit un score de un goal d'écart, ou même s'ils sont menés. On l'a déjà parlé plusieurs fois, quand ils sont menés, ils ne paniquent pas. Ils continuent à jouer leur jeu et généralement, ça passe. Là, ils mènent 1-0. Ils sont bousculés. Et cette fois-ci, ils n'ont pas su gérer.
C'est bizarre qu'il n'y ait qu'un goal d'écart aussi. Hein. Ça leur ressemble tellement pas.
Ils ont oublié de le tuer, c'est ce que j'ai dit.
Il serait intéressant, les statistiques, de voir à combien de fois cette saison ils étaient à 1-0 dans les 15 dernières minutes. On n'a vu pas énormément.
Il faut dire que Bas Dost était absent aussi. Hein.
Mais quoi, avec cette confiance, tu penses?
Moi, je ne les vois pas comme ça.
Moi, je pense qu'ils avaient.
Il faudrait peut-être faire un match nul.
Tout à fait.
Je pense qu'ils avaient juste envie d'être chez eux le vendredi soir et ils n'avaient pas forcément envie d'aller à Charleroi.
Question, mais quand même, les deux défaites en Coupe et en Coupe d'Europe, ça joue dans la tête quand même?
Non, parce que le match qu'ils ont fait à Zult.
Dans ma tête, c'était 5-0, mais c'est 3-0, mais ils auraient pu en mettre le double.
Bien sûr.
Je crois qu'il y a un moment légitime de relâchement.
Je crois, mais
on compte sur Clément pour les mobiliser très vite.
Mais Clément, d'ailleurs, je pense qu'il l'a dit, il n'a pas vu une mauvaise équipe de Bruges. Et puis finalement, sur le vu du match, je vais essayer d'être neutre, je pense que c'est mérité pour Charleroi, parce que leur volonté, leur motivation, ils ont été chercher ce point. Franchement, ils ne le doivent à personne d'autre qu'à leur mentalité.
Nicholson.
C'est aussi un... Voilà.
Il a remué.
C'était un beau match. Et puis, ça fait normalement 9 minutes. Je ne sais pas où en est le score. Je préfère pas regarder.
0-0.
Mais c'est vrai que
0-0 toujours.
Bruges se déplace à Gand. Ils avaient deux déplacements pas faciles en alignement, parce qu'aller jouer au Mambourg, c'est jamais évident. Aller à la Guelamco Arena, ce n'est pas une partie de plaisir.
Surtout pour Bruges.
Le derby des Flandres. Oui. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est on va quitter la Belgique, on va écouter un peu de Zik, parce que, d'après ce que je sais, c'est la mi-temps. Voilà, et avant de retrouver la deuxième mi-temps, je vous propose de Indochine et Christine Endequin, je dis bien. Troisième sexe. J'ai beau chercher, j'en trouve que deux, moi. Allez, à tout de suite. On parlera Champions League, on parlera Serie A, Liga et Ligue 1.
Cheveux longs, cheveux blonds colorés, toute nue dans une boîte en fer. Il est bel, il est beau de crier, outragé, mais j'en ai rien à faire. J'ai pas envie de la voir nue, j'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non. Dans des cheveux d'or qui oublient leur vertu. Mais c'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador asexué une fois dévêtu. Qui croire quand on les voit comme ça, excitant toutes les petites filles. Pourquoi on n'y croit plus comme ça, isolé dans un corps presqu'île. J'ai pas envie de la voir nue, de la voir nue. Et j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non. Pour les filles sans contrefaçon, maquillées comme ma fiancée. Le grand choc pour les plus vicieux, c'est bientôt la chasse aux sorcières. Ambigu jusqu'au fond des yeux, le retour de Jupiter.
te prends la main. Indochine, Christine and the Queens, un duo improbable, et pourtant, à mon avis, ça va bien fonctionner. Vous êtes toujours dans On joue la prolongation et début de la seconde mi-temps avec beaucoup de retard quand même. Et bien, pour cette seconde mi-temps, on va, sans embâge, et sans transition aucune, on va se plonger dans la Champions League.
Quelle douce musique.
Des souvenirs pour certains, de la science-fiction pour d'autres.
Ça vanne.
Bien. Eh bien alors, cette semaine, verra les favoris se distinguer une fois de plus, puisque, mon avis, je sais pas ce que vous en pensez, je pense pas qu'on aura beaucoup de surprises, sauf catastrophe, puisque, Chelsea a gagné 0-1 à l'Atlético.
Ça, c'est limite celui qui va être le plus disputé, en fait, vu...
C'est très possible ce que tu dis.
Parce que le reste, mais c'est vrai que Chelsea est sur une bonne dynamique.
C'est pas mon ami, mais depuis que Tuchel est là, ils n'ont pas encore connu la défaite.
Ouais, c'est ça. Et j'ai vu que c'était le deuxième entraîneur. Il y a un chiffre qui a circulé avec le nombre de matchs. Je crois que c'est 12 matchs. C'est le deuxième entraîneur de l'histoire de Chelsea à l'avoir fait. C'est pas mal, intéressant.
Bah oui, c'est cool.
Ouais.
Puis alors, il y a aussi Bayern, qui est allé s'imposer à la Lazio 1-4. Est-ce que vous voyez la remontada?
Au vu de la physionomie du match aller, franchement...
C'est plus à la mode, les remontadas.
Non, je pense pas. Man City, qui avait été battre Gladbach 0-2, dans un ballotage plus que favorable, bien sûr. Et puis, on vient de parler de Chelsea-Atlético. Et puis, il y aura aussi un certain Real Madrid, enfin Atalanta-Real Madrid, c'était 0-1 au match aller. Et là, le Real accueille l'Atalanta et ça vient de tomber, c'était en fin d'après-midi. Ce sera sans Eden, parce qu'Eden...
4 à 6 semaines.
Oui, 4 à 6 semaines, alors qu'il a joué un quart d'heure à peine ce week-end, après autant. Alors, on en parlait au début de notre émission tout à l'heure. Est-ce que vous ne pensez... Alors, il y a un problème hasard, ça c'est une évidence, problème physique, parce que c'est à répétition, mais est-ce qu'il y a... De votre point de vue, est-ce que c'est vraiment uniquement dans son corps qu'il faut chercher les raisons il est mal soigné?
Moi, je pense qu'il paye toutes ces années où il a pas fait le travail de fond nécessaire quand il était à Chelsea et quand. Enfin, on a tous rigolé pour l'histoire du hamburger quand il était parti de Belgique-Autriche.
C'est vrai.
Mais c'est ce genre d'action-là qui font qu'aujourd'hui, il ne sait plus mettre un pied devant l'autre.
Ne me dis pas que George Lekens avait raison, alors. S'il vous plaît.
Je sais que ça peut faire mal au cœur, mais...
Non, il avait raison à 90%, comme toujours.
Bonne mémoire, bien. Non, alors effectivement, si c'est hamburger après chaque entraînement, je peux encore
concevoir. Non, mais je prenais cet exemple-là parce que c'est celui qui avait fait parler, mais enfin on sait que Hazard c'est pas
le... à Lille la veille du dernier match de championnat.
Ouais, mais c'est ça, on sait très bien que
mais il avait mis 3 goals.
Ouais, mais on sait très bien que c'est enfin quand t'as 20 ans, c'est faisable de sortir ou de mal manger, mais quand on a 30, le poids des années commence à et puis surtout pour ce type de joueur là qui a un centre de gravité très bas et qui bouge beaucoup, qui s'est pris 7 ans de tacle dans les chevilles, enfin
ça c'est vrai.
Moment, ça
je suis d'accord, mais
le corps est usé quoi.
Pour reprendre ce que tu disais, tu parlais d'un hamburger, on va parler de quelqu'un que Steve et moi de connaissons et toi aussi Henri bien sûr, mais qui nous concerne dans nos clubs respectifs, c'était Ronnie Rosenthal, l'Israélien à l'époque, je me souviens, c'était la glorieuse époque où je sortais, je le voyais au Mirano avec son whisky. Il fumait clope sur clope. Ouais, et puis, ça, c'était la nuit du samedi au dimanche. Et le dimanche, à 15h, il courait comme un lapin sur le terrain.
Mais ça, c'est
et il avait 3 poumons. Hein,
c'était le foot d'avance, aujourd'hui.
Oui, mais moi, je fais ça. Il me fallait 2 jours pour me reposer, franchement. Donc, je veux dire, ils ont quand même aussi... C'est quand même des physiques hors normes, quelque part.
Bien sûr. Loin de moi de l'idée de critiquer
les exigences du football moderne sont évidemment, avec 3 matchs par semaine depuis qu'ils ont 16 ans...
Et oui, aussi, il commence très tôt, Hazard. Tu fais bien de le souligner. Il commence à 16 ans. Il a quand même 15 ans de carrière derrière.
Alors, Lio, qu'est-ce qu'on doit dire?
Messi, c'est Messi.
Et puis, on n'est pas tous égaux là-dedans. J'ai toujours été surpris de voir qu'il était si peu blessé.
C'est ça,
il...
ouais,
alors que quand il était en Angleterre, il y avait les Anglais adorent les statistiques, il y avait les statistiques qui sortaient sur le nombre de fautes qui étaient commises sur lui, le nombre de tacles qu'il subissait. C'était impressionnant. Et malgré tout, on avait même vu un reportage lorsqu'il enlevait ses jambières, l'état de ses jambes après un match. Et ben, c'est assez impressionnant. La plupart du temps, c'était que des bleus. Ou des petites contusions, mais il a eu la chance de n'avoir rien eu de musculaire. Ou
très peu. Là, on revient un peu à ce que, au débat qu'on avait avec Marcel Javot, enfin, je pense que moi j'y étais pas, mais que vous aviez soulevé, c'est que dans le foot anglais, ok, il y a des tacles, c'est très rugueux, c'est très viril, c'est un sport de contact, le foot, hein, il faut pas l'oublier, mais tu n'as pas des fautes criminelles, je trouve, ou tellement rarement par rapport à ce qu'on voit en Liga, ce qu'on voit parfois en Serie A, ou même chez nous. Je veux dire, chez nous, un match arbitré par un Belge, en Angleterre, je dis toujours, ça se finit à 3 contre 4, quoi, avec l'arbitre.
Oui, mais on dit toujours ça, mais j'ai aussi le sentiment que c'est pas tant le fait qu'il ait joué dans le championnat anglais, et c'est la répétition. Mm-hmm. C'est la répétition de ça, et le fait que son corps a finalement beaucoup enduré sans avoir... À ma connaissance, connu de longues blessures. Et on a le sentiment, mais on n'est pas, moi je suis pas médecin, hein, mais j'ai un peu le sentiment que là, il y a quelque chose qui a lâché, que la vanne est ouverte, et que clairement, le corps ne semble plus supporter les exigences du football professionnel, peut-être avec tout ce qu'il a enduré.
Parce que le pire, c'est que c'est même pas des blessures en match, hein, c'est des blessures à l'entraînement.
Il y en a une avec Meunier.
Ouais, peut-être que Meunier lui a cassé la cheville pour toute sa vie, parce que
la question sous-jacente, c'est est-ce que le staff médical était à la hauteur. Mais là, on n'a pas les.
Mais ce staff médical, il a gagné 3 Ligues des Champions et 3 Ligas.
Ouais, j'aurais du mal à me dire, tiens, le Real de Madrid n'a pas des gens suffisamment compétents, mais peut-être qu'on se trompe.
Regarde quand même Ancelotti, ou je crois que c'était Ancelotti. C'est lui qui a viré. Le Bayern avait aussi un palmarès incroyable en Europe.
L'équipe n'a quasiment pas changé, l'entraîneur a toujours les mêmes mecs autour de lui. Enfin, tu vois, le Real n'a pas été révolutionné comme l'avait été le Bayern à l'époque. Donc, moi, je trouverais ça bizarre. Et puis, Zidane, il est hyper précautionneux avec Hazard. À chaque fois, il dit je vais le faire rentrer 15 minutes, je vais pas le faire revenir trop tôt.
Dans la semaine, il dit cette fois-ci, il recommencera quand il sera à 100%.
Exactement. Et là, de nouveau, il redit en conférence de presse aujourd'hui qu'il sait pas combien de temps ça va durer
et qu'il ne comprend pas ce qui se passe.
Il y a quand même un lien entre le moral, enfin le psychique et le physique. Il est pas bien. Ce transfert n'est pas un succès pour l'instant. C'était son rêve d'arriver au Real et ça se passe pas comme il veut. Je pense qu'il y a de ça quand même. Il y a un lien entre le psychique et le physique.
Sûrement.
Et tu as peut-être raison, Henri, mais c'est vrai qu'on voit toujours. On voit toujours Eden Hazard comme étant la personne sur qui finalement roulent les angoisses, les stress liés que toute personne pourrait avoir professionnelle liée à la pression qui est mise depuis son enfance. Et lui a toujours paru finalement très en retrait par rapport à ça.
Parce qu'il a jamais
sur le ton de le roule.
Il a jamais vraiment eu de grosses désillusions aussi. Hein. Depuis le début de sa carrière, c'est un peu un conte de fées, quoi. Que ça soit à Lille, que ça soit à Chelsea ou même que ce soit avec les Diables. Bon, à part l'Euro peut-être, mais sinon. Enfin, j'ai l'impression que c'est la première fois de sa carrière qu'il est confronté à de telles difficultés.
En tout cas, c'est certain. C'est certain que c'est la première fois de sa carrière. Je pense qu'il doit faire, pour la boutade, en tout cas un petit retour en arrière. Je pense que le Standard serait très heureux de l'accueillir pour qu'il puisse reprendre la forme. Non, mais plus sérieusement, je suis comme toute la Belgique extrêmement angoissé. Parce que je me pose vraiment la question de savoir si, et si oui, quand il va pouvoir revenir.
Et plus égoïstement, est-ce qu'il sera prêt pour le championnat d'Europe? Au rythme où ça va, on peut se poser la question. Et nous avons Dieu avec nous. Bonsoir Sam.
Bonsoir à tous les quatre. Vous allez bien?
Parfaitement bien. On est heureux de
mieux
t'entendre. On est. Oui, ça va mieux qu'Eden.
moi, je pense sur Eden que, comme ce qu'a dit Blaise, je pense que là, c'est dans la tête. Il a un blocage, et pour moi, le mieux qu'il puisse faire, c'est de partir au plus vite du Real Madrid et de trouver un club dans lequel il va s'éclater. Mais là, j'ai l'impression que c'est trop, en deux saisons, d'avoir vécu tout ça. Ça, même si c'est un challenge pour lui, je pense que ça vaut pas la peine de se faire aussi mal, à son âge en plus, et de perdre du temps encore.
Ce sera un tel aveu de faiblesse de partir du Real quand même.
Ouais. Mais bon, un aveu de faiblesse, c'est pas, ça arrive. J'ai pas en tête là, mais il y a des joueurs qui arrivent pas, qui sont excellents pourtant. Et puis il y a un transfert dans un club, peut-être parce qu'il y a eu trop d'attentes de sa part aussi. de la part de tout le monde. Ça reste un des meilleurs joueurs du monde. Il peut peut-être même encore gagner plein de choses ailleurs, mais moi j'ai l'impression que c'est pas possible. En plus, c'est des blessures musculaires à chaque fois. C'est pas qu'il se fait tacler et qu'il se fait, et les blessures musculaires ou les ligaments, enfin, encore une fois, moi non plus je suis pas médecin, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, il y a psychologique aussi dedans. C'est-à-dire que je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus, les étoiles sont pas alignées pour lui au Real.
Est-ce que tu es en train de plaider pour le championnat de France?
Mais par contre, je tiens à dire à Steve que moi, je suis beaucoup moins angoissé que vous. Hein.
Ah,
en
d'accord.
Vue du championnat d'Europe des Nations.
Ah oui, oui, d'accord.
Au contraire.
Ah, ah, tu as pris ta casquette partisane, désolé.
C'est un compliment que je lui fais, parce qu'évidemment, c'est une arme tellement dangereuse que, bon. Mais non, pour le football, et puis parce que pour la Belgique aussi, non, ce serait... Il faudrait qu'il puisse revenir. Là, le mieux, ce serait qu'il... Je ne sais même pas ce que ça peut être le mieux. Parce que s'il revient début mai, il aura le temps de faire quoi? Bien sûr qu'il sera sélectionné, mais il va arriver dans quel état?
En même temps, on peut se poser la question, pour avancer un petit peu, si vous voulez bien. On va rester dans la Liga. Finalement, Eden étant absent, je lisais dans le journal tout à l'heure, quasiment 360...
Il a raté 50 matchs du Real.
C'est incroyable.
En 2 ans.
L'Atlético est en perte de vitesse pour l'instant, puisque le Barça se retrouve à 4 points et, je pense, le Real à 6. Donc, le championnat n'est pas joué. Imaginons le Real champion, sans hasard, parce que ce ne sera pas pour les 3 matchs qu'il aura joué. Sa carrière est pourrie, quoi, là-bas. Sa carrière est pourrie au Real. Et je pense que Sam a raison. Il doit se tailler, parce que quelle sera sa crédibilité si le Real est champion sans lui? Ça va être un petit peu compliqué, hein, pour les aficionados de l'accepter.
Ouais, et même si sa valeur a peut-être un petit peu baissé, si le Real réussit à être champion sans lui, bah quel est l'intérêt de garder un type qui
tout
vaut 80, 100 millions d'euros peut-être sur le marché maintenant?
Ils vont peut-être accepter de le lâcher.
Il y aura des Anglais qui vont le vouloir. Et...
tout à fait.
Ce serait peut-être la meilleure des choses quand même pour lui. Ouais.
Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est...
Tu peux parler plus fort. Hein,
ce qui m'inquiète un peu, il n'a pas encore eu cette expérience d'avoir eu une blessure et de revenir de cette blessure.
Mm-hmm. Donc, mais en fait, ce n'est pas des récidives, c'est chaque fois autrement.
C'est ça. Ouais. Mais je veux dire, s'il avait déjà eu... un cas comme ça où il sait qu'il est capable de revenir.
Cette fois-ci,
il n'a pas encore eu cette expérience. Il a été épargné par les grosses blessures dans sa carrière. Et donc, je pense qu'il doit être dans une période de doute assez intense.
Mais apparemment, en plus de ça, à part une exception, je crois, on ne peut jamais parler de grosses blessures. C'est ce qu'on appelle des pépins physiques, mais à répétition.
C'est des petites élongations.
C'est une pastèque, ce mec, quoi. Il n'y a que des pépins.
Ouais. Mais c'est marrant de parler de lui, parce qu'on se replace il y a 2 ans.
Exact.
C'était vraiment une intrigue. Cet homme n'était jamais blessé.
Ouais, bah, oui, bah, on lui a porté la chkoumoun. Oui. Qu'est-ce que tu veux. Bien, Sam, puisqu'on t'a, on va parler peut-être Ligue 1. Tiens, on écoutait attentivement ton entretien tout à l'heure avec, je pense, c'était Julien Taïeb. C'était fort intéressant, ma foi. Donc, en Ligue 1, le PSG ayant perdu, Marseille a gagné. Lille n'a même pas profité de l'occasion.
Je pense qu'ils ne seront pas champions, Marseille, si c'était ta question.
Même en perdant, tu penses?
Non, mais toi qui...
D'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu, Blaise, il disait... Julien Taïeb disait, les grandes stars du PSG, de l'OM, de l'OL...
J'ai entendu.
Je me dis, comment est-ce que Marseille va réussir à être au trophée des champions cette année? Ça va être compliqué quand même. C'est pour jamais.
Bien, je voulais te poser une question. Alors, le PSG a perdu contre Nantes. L'effet Domenech, disait je ne sais plus qui sur WhatsApp hier.
Oui, surtout que c'est l'effet... Voilà.
Et puis Lille n'a pas profité de l'occasion, mais ils ont joué avant le PSG, mais ils avaient un peu patiné. Le PSG avait une occasion incroyable de revenir dans la course, vraiment.
Lyon fait match nul en arrachant un point, je crois.
Ouais, contre Reims.
Lille jouait à Monaco, donc Lille joue à Monaco, donc deux équipes en course pour le titre. Ils font match nul, donc c'est vraiment la bonne occasion pour Paris Saint-Germain. C'était en gagnant, ils passaient devant puisqu'ils ont un
avantage meilleur,
qui est meilleur. Et puis là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors ils sont, on ne sait pas. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont, enfin, ils sont sur courant alternatif depuis le début de cette saison tellement particulière. et que à la limite ils doivent se dire que tant qu'ils avancent en Ligue des Champions, le reste n'est pas très grave.
Mais Samuel, tu
alors
trouves...
ils sont peut-être sûrs de leur force. Hein. Pardon ?
Tu trouves pas que justement en fait depuis que Pochettino il est arrivé, en fait il y a eu juste un match ovni, c'est le match du Camp Nou. Sinon en fait ils sont mauvais depuis qu'il
Exactement.
Est arrivé.
Ils sont mauvais depuis et ils sont pas terribles depuis le début de la saison. Hein, je suis d'accord. Ouais. Il y a eu ce match. C'est une qualification qui est en trompe-l'œil, quoi. Ils ont gagné.
S'il fallait faire un match de fou, c'était bien celui-là. Hein.
Oui, mais ce que bon, ils ont réussi à faire ce qu'ils ne réussissaient jamais à faire, c'est-à-dire éliminer un gros calibre de la Ligue des Champions. Donc ils vont pouvoir se féliciter de ça, se congratuler, se taper dans le dos. Mais en attendant, ils produisent tellement peu que bon, inquiétant. Le titre de champion de France, moi, il y a trois semaines, un mois, j'avais dit que pour moi c'était fini parce qu'ils avaient fait une mauvaise série. Puis là, ils avaient l'opportunité de repasser devant. Ils réussissent pas à le faire. C'est inquiétant. Je sais pas vraiment.
Mais d'un autre côté, tu peux peut-être essayer de voir aussi la bouteille à moitié pleine, dans le sens où, eh bien, quand eux perdent, les autres ne gagnent pas. Donc peut-être que les planètes sont alignées aussi pour leur offrir le titre quelque part.
Ça va se jouer dans les prochaines semaines parce qu'ils vont tous s'affronter là. Et je pense qu'ils jouent contre Lyon et Lille ils jouent Lille le week-end prochain, je pense, pareil.
Ouais.
Et puis Lyon après.
Ouais, déjà ils jouent après-demain la demi-finale de. Huitième de finale de Coupe de France, parce que normalement les matchs de Coupe de France étaient prévus le mardi et mercredi où le PSG est en quart de finale de Ligue des Champions, donc ça a été bien avancé. Non, il y a eu un événement très très particulier, j'avais jamais vu ça, et tout le monde est resté très étonné à la télévision hier dans le match du PSG. On voit Leonardo, le directeur sportif, parler à quelqu'un du staff qui va parler dans l'oreille de Pochettino, qui effectue à ce moment-là un changement et fait sortir Di Maria, qui était plutôt bon. Et alors, il y a toute une agitation sur le côté. Di Maria sort du terrain, puis Pochettino prend un papier de la main de Leonardo, il le rejoint au vestiaire. Donc les commentateurs disaient « Mais oh là là, c'est pas possible, il est en train de lui donner des consignes en plein match. » Et puis c'était juste au moment où il a fait un changement et puis Paris s'est pris un but à ce moment-là. Donc on commençait à se demander ce qu'il en était. En fait, ça a été avéré, il y a eu un home jacking chez Di Maria.
Et chez Marquinhos.
Chez Marquinhos pendant
Absolument.
Le match. Voilà, chez Marquinhos et Di Maria. Et donc visiblement, c'était un cambriolage avec beaucoup de violence chez Di Maria. Et donc ils se sont permis, enfin ils ont tout à fait, il y a des priorités, c'est normal, de le faire sortir du terrain pour qu'il puisse rentrer directement chez lui. Donc il y a eu un moment de confusion. Je vais pas vous dire que ça a peut-être joué sur les joueurs. Peut-être qu'ils ont perçu qu'il y avait quelque chose de bizarre. Il y avait une ambiance bizarre dans le stade quand on regardait à la télé, mais c'est vrai que comme les journalistes parlaient plus trop, c'était un peu spécial. Mais bon, on va pas se réfugier derrière ça.
Non, parce que normalement,
cette histoire de cambriolage, elle est assez inquiétante parce que ça fait depuis l'année dernière déjà, je pense qu'on en a 6-7 joueurs du PSG qui ont été cambriolés en 2 ans là. Et normalement, une adresse de footballeur, ça se connaît pas. Enfin, c'est des gars qui sont 24 heures sur 24 sous sécurité. Et je sais qu'à l'OM, c'était arrivé il y a quelques années. C'était avéré qu'il y avait une fuite au sein du club qui avait balancé toutes les adresses des joueurs. Et bon, on va laisser la police faire son travail, mais c'est quand même très très bizarre que toutes ces adresses sortent.
C'est gentil, Blaise, de laisser la police. Tu te proposais ?
Non, mais c'est bizarre quand même. Enfin, normalement, tu connais pas une adresse d'un joueur de foot.
Il a des voisins, il y a moins de le suivre, je sais pas.
Ouais.
En tout cas, on a du suspense cette année.
Ah oui. En fait, il y a des championnats où on pensait qu'il n'y en aurait pas, où il y en a, je pense notamment à la Ligue 1. La Liga, on venait de l'évoquer, puisque au départ, ça semblait promis aux hommes de Diego Simeone, mais apparemment, rien n'est encore joué. Il reste encore un bon, je ne vais pas dire un tiers, mais un bon quart de la compétition à avoir lieu. Et puis en Serie A aussi, très belle saison avec l'Inter qui maintenant a, je pense, 9 points d'avance sur l'AC Milan à la faveur de sa victoire conjuguée à la défaite de l'AC Milan contre Naples à la maison en plus. Ça semble se dessiner, mais enfin on sait aussi qu'en Serie A ça peut bouger très très vite. Hein.
La Juve est troisième avec un match de moins.
Comment dis-tu ?
La Juve est troisième avec un match de moins.
Et ils sont à combien de points ? C'est ça l'intérêt.
Ils ont
10 points de retard.
Ils sont à la cave, je pense. Enfin, en plus, ils se sont fait éliminer de la Champions League au vu de leur match. Franchement, cette année, ils jouent vraiment, vraiment pas bien la Juve. Et l'Inter, ils sont pétris de certitude, quoi.
Ils marchent sur l'eau, clairement.
Ils ont Robelo devant qui est un cyborg.
Non, mais 19 buts, attends.
C'est n'importe quoi.
19 buts, et alors, je suis curieux, parce que là, on insiste sur son 19e but, mais les assists aussi, hein, c'est pas pour rien. Et les espaces qu'il crée, même sans faire de passe, mais...
Son jeu fait que même quand il perd, il attire, sa masse, il attire un certain nombre de défenseurs, et son jeu, il crée sans le vouloir, ou alors on l'utilise, il crée énormément d'espace pour le reste de son équipe.
Ah ben vous savez comment on appelle Lukaku à Genk, c'est le Onuachu de l'Inter.
le deuxième but de l'Inter est magnifique aussi. Hein. Le deuxième but de l'Inter, c'est une tête décroisée, fine, magnifique.
Mm-hmm. Ouais. Bien. Ben mon bon Sam, comment le supporter que tu es envisage la fin de saison pour le PSG?
Moi, je pense qu'ils vont pas être champions. Ils vont gagner la Ligue des Champions, c'est bien une chose à laquelle je m'avancerai pas parce que j'en suis pas persuadé. Mais j'ai l'impression qu'ils seront pas champions cette année. Il y a trop d'autres paramètres extérieurs, enfin quand je dis sans vouloir les exonérer de quoi que ce soit, mais je regardais qu'ils ont perdu régulièrement aussi après leur match de Ligue des Champions.
Oui.
Donc ils ont du mal à se remobiliser après les matchs de Ligue des Champions. Ça va leur pomper de l'énergie et je pense que les autres vont plus lâcher, enfin les autres essentiellement Lille, mais on sait jamais, même Lyon
prochain match à Lyon,
points, en fait, avec Paris.
Prochain match à Lyon. Ouais. Hein.
Et qui sera champion alors, Sam, selon toi ?
Lille, je pense.
Allez, Lille.
Ouais. Moi, j'aimerais bien.
Lille. Moi, je pense que ça va être un podium Lille, Paris, Monaco. Je pense que Lyon va s'écrouler. Et Monaco, ils sont tellement forts, je trouve.
Je crois. Ouais.
Ils jouent contre le PSG. Monaco, si Lyon gagne, ils sont encore dans la course. S'ils gagnent plus, je pense qu'ils décrochent, effectivement.
Ben, ce sera intéressant, en tout cas, de suivre. Il y avait longtemps que la Ligue 1 n'avait pas réservé autant de suspense, en définitive. Hein.
Absolument.
Presque 10 ans,
ouais,
on avait.
Exactement.
Ouais, non, c'est sympa de voir que...
Il y avait le titre de Monaco, quand même, en 2018, mais c'est vrai que c'était un peu
un feu de paille.
Ouais, exactement. Je trouvais pas d'expression.
Un feu de paille, comme tu dis. Bien, eh bien, on va terminer peut-être cette partie football, parce que j'aimerais bien vous parler un peu de Formule 1, si vous me le permettez, dans les trois dernières minutes de l'émission. Mais je voudrais bien terminer cette partie foot en parlant de Lukaku, puisqu'on l'évoquait à l'instant. Et Sam, ça ne t'a pas échappé, puisque toi, tu es comme qui dirait, à l'affût de toutes les infos. Eh bien, il y a une semaine... Dans la semaine, il y a une information qui est parue selon laquelle Lukaku aurait, hein, c'est du conditionnel, rejeté, c'est-à-dire refusé les avances de Guardiola et de Man City, préférant rester à l'Inter. Info, intox.
Intox.
Intox. Et toi, Sam, qu'en penses-tu ?
Moi, ça ne m'étonnerait pas que ce soit info. Je pense qu'il a une bonne relation, très bonne relation avec Conte.
Ouais, je suis d'accord.
Je pense que dans cette... il a cette petite guéguerre qu'il a eue avec Zlatan a eu pour effet de lui donner une stature particulière peut-être dans la ville. Et j'ai l'impression qu'il s'y sent bien. Il faut dire que l'Angleterre, il connaît quand même. Il a beaucoup joué en Angleterre.
Ah, clairement.
Il a beaucoup, beaucoup tourné en Angleterre. Donc revenir en Angleterre, même si c'est sous Guardiola, est-ce que c'est vraiment pour lui un challenge beaucoup plus important? Alors que l'Inter est. Je dirais que. L'Inter n'a pas été champion depuis 10 ans, hein, déjà, 11 ans. Donc déjà, je pense que c'est important pour lui de donner ce titre à l'Inter, de poursuivre l'année prochaine en Ligue des Champions avec l'Inter. Et puis après, vous avez peut-être raison, c'est peut-être de l'intox, mais il est suffisamment intelligent pour, à 2 mois ou 3 mois de la fin de la saison, éteindre la rumeur tout de suite, et peut-être qu'il partira quand même cet été. Mais au moins, dans le sprint final du championnat d'Italie, il ne laisse pas entendre qu'il pourrait partir, ou je ne sais pas.
Samuel du Foot Fiction. Avec Guardiola, mais au PSG.
Ouais.
Sous Guardiola, mais au PSG. Tu es preneur ?
C'est ça.
Si. Lukaku, sous Guardiola, mais au PSG.
Avec plaisir. Je viens le chercher en Italie, moi.
Bah, à mon avis.
Je suis en voiture, il n'y a pas de problème.
Évidemment, quand je disais intox, c'était pour l'offre de Manchester City. Je suis d'accord avec Samuel sur le fait qu'il va rester à l'Inter et que c'est le mariage parfait, cette équipe, cette ville.
Mais c'est surtout, et Sam l'a évoqué, je pense, comme lui, que la symbiose et le couple qu'il forme avec Conte est juste indestructible.
Bah, c'est lui qui l'a demandé explicitement. Il a dit, je veux Lukaku comme numéro 9 dans mon équipe.
Il l'a voulu dans chaque équipe. Il a voulu le faire revenir à Chelsea quand il y était. Bon, ça ne s'est pas fait. Il était à Liverpool ou à Everton à l'époque, je ne sais plus. À Man City ou à Man United, je ne sais plus, parce qu'il a vraiment bourlingué.
Il était à Everton.
À Everton. Et sous un certain Martinez, je crois. Si ma mémoire est bonne. Parce que Martinez avait expliqué, puisqu'on en est à parler des rumeurs dans les journaux, Martinez aurait dit lors d'une interview, on lui demandait quel était le meilleur joueur du monde, ou si pour lui plutôt Lukaku était le meilleur attaquant du monde. Il a répondu, bah oui, parce que moi à l'époque où j'étais à Everton, j'ai réussi à demander et à obtenir de ma direction près de 38 millions d'euros pour le faire venir à Everton, alors qu'il n'était pas encore le quart de ce qu'il est devenu aujourd'hui, en termes de valeur, bien sûr. Donc Martinez avait eu le nez fin sur ce coup-là. Steve, pour toi, info ou intox ? Est-ce qu'on t'a pas entendu sur le coup ?
Parce que je n'en sais rien.
Tu t'en fous, en fait.
Non, je m'en fous pas du tout, mais je me dis qu'il est très très bien là.
Plus, on n'en sait rien, mais ça ne nous empêche pas de parler.
moi, je crois que Steve, on sait plus que ce qu'il dit.
Je me posais la question quand vous étiez en train d'en parler, si le fait de s'associer avec Kevin De Bruyne était pour lui aurait été pour lui quelque chose à considérer en plus.
Ah oui. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça. Enfin, en tout cas moi pas.
J'y réfléchissais donc.
Oui, merci Steve, c'est gentil.
Et puis je me suis rappelé que en tout cas personnellement, je ne sais plus, il est très très proche, je sais personnellement plus de Eden Hazard.
D'accord.
Ils sont très 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 amis, mais on se souvient tous de cette très belle image dans les Diables Rouges de Bruyne et Lukaku qui se prennent
le point.
Et donc ouais, on les verrait bien. Moi, j'avais pas tellement d'idées, mais je suis assez convaincu par le fait qu'il a fait le tour peut-être en Angleterre.
Tu crois que De Bruyne ira à l'Inter?
Je ne crois pas.
Ça, ce serait sympa. Non,
peut-être qu'Eden peut aller à l'Inter.
Ouais. Oui, aussi. Pourquoi pas? Bah, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Hein. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Oui, Henri.
Ouais. Je voudrais dire, avant qu'on passe à la Formule 1, je voudrais quand même un petit coup de chapeau à Felice Mazou à qui on a porté chance.
Ouais,
c'est
ouais.
Grâce à nous qu'il est champion.
Oui, je suis sûr que c'est grâce à nous. C'est vrai que la semaine passée, on le recevait ici. Enfin, il nous a accordé une interview et il était.
Non, mais quelle saison, sur l'ensemble de la saison.
Saison magnifique. Un match, il y avait juste. C'était le soir où le Standard s'est qualifié contre Penn.
C'était un bon samedi soir.
Oui. Oui, c'est clair, mais c'est vrai que l'Union n'a pas produit son meilleur football ni son meilleur match, forcément, mais bon, le résultat était là.
Vous n'avez pas vu le tweet du Standard félicitant l'Union?
Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre, quasi tous les clubs, ils ont mis un tweet pour féliciter l'Union.
Mais ça est logique, parce que l'Union, c'est un club historique.
Absolument,
mais
et emblématique.
Le Standard a mis « on se félicite d'avoir un club bruxellois en Division 1 ».
Ouais.
Et j'ai trouvé que c'était bon.
Et Anderlecht s'est aussi manifesté en disant qu'ils étaient ravis de retrouver l'Union. Mais l'Union, alors, Blaise...
Non, mais je me rends compte de la
c'est parce que Blaise est jeune.
De ça. Mais quand même, enfin, je sais pas, ça va devenir un concurrent direct et on les félicite d'avoir
D'abord, concurrent direct, c'est pas ennemi. Et puis,
au foot qu'on voit cette année en D1, ce serait pas étonnant que ce soit un candidat au titre.
Et puis, on aime les blasons, ce qui a créé l'histoire du sport qu'on aime. Et l'Union, clairement, il est ancré comme étant le club des papys, qui l'ont connu en division 1. Et on est content de nous découvrir en division 1.
Mais moi, je l'évoquais à l'époque, quand ils sont descendus, moi j'avais 10 ans, ils sont descendus jusqu'en division 3, eh bien, on allait les voir, parce que mon père était un fondu de l'Union, eh bien, en division 3, imagine-toi qu'on allait à Zeel sur des champs de patates, il y avait entre 500 et 1000 personnes qui suivaient l'Union.
Mais je ne veux pas diminuer, en tout cas, l'intérêt pour l'Union, mais ça, c'est souvent le cas de clubs emblématiques qui descendent.
Ouais.
Le Berscott a eu ça aussi, l'Antwerp a eu ça
Charleroi.
Aussi. Tous les clubs assez emblématiques qui descendent perdent évidemment le gros de leurs supporters, mais ont ce noyau dur.
Faudra voir un petit peu ce Anderlecht dans 2-3 ans.
Le FC Liège, par exemple, qui était un club emblématique,
est toujours, maintenant ça fait vraiment longtemps qu'ils végètent dans les profondeurs, mais ont toujours une bonne base de supporters qui les suivent, en ce compris à l'extérieur.
Eh bien, dont acte, on va dire, en espérant que, ben, on leur souhaite bonne chance pour l'année prochaine en D1A, puisque après 48 ans, le rêve est enfin devenu réalité. Sam, ben, on va parler Formule 1 une autre fois, parce que là, il nous reste même pas une minute
la saison
pour se dire au revoir. Non, elle a commencé. Hein. Comment dis-tu?
Comment on va parler la semaine prochaine.
Ah, avec plaisir, mais il y avait eu les trois premiers jours d'effet officiels. Voilà, mais on y reviendra une autre fois. Il est temps de se séparer, bah, puisqu'il est 21h29.
Je vois qu'il me reste un tout petit peu de temps, mais
minute.
Pour revenir sur ce qu'on disait, en France, le club le RC Strasbourg, qui a été descendu en division 4, et ils remplissaient leur stade de 25 000 personnes tous les week-ends.
À la Méno.
Exactement.
Le Celtic de Glasgow.
Le Glasgow Rangers, ouais. Le Glasgow Rangers aussi, ouais. Ouais, ouais.
Eh bien, comme quoi, il y a, comme qui dirait, toujours.
Les traditions ne se perdent pas.
Exactement, les grands clubs ne meurent jamais. C'est une belle conclusion. Hein. Elle n'est pas de moi. Hein. Elle est de Steve.
il sait ce que c'est soutenir un grand club. Hein.
Sam, on espère que tu seras là la semaine prochaine en vrai, en chair et en os.
Moi aussi, je vous souhaite une très bonne soirée.
Merci beaucoup.
On se retrouve.